Non.
Ah.
Effectivement. Par exemple, sur le... Puis on attend toujours le EP, d'ailleurs, qui est supposé
En fait, on l'attend
s'intituler...
toujours lui aussi.
La... C'est quoi déjà? C'est la roue à quatre boutons? C'est
Le bouton
le...
à quatre trous, de quatre boutons, la roue, hein? La
Ah,
roue à quatre
la
trous.
roue à quatre boutons, me
Quelque
semble.
chose du
Il y a
genre.
un mélange entre les deux, en tout cas, bref. Puis t'as raison, effectivement, on l'attend toujours. Où est sa mamade? Je pense qu'en ce moment, on est à peut-être une couple de semaines de autant chercher sa mamade que Jean Leloup.
Ah, même là, Jean Leloup,
T'sais...
je pense qu'on le voit plus.
Ben oui, c'est ça, parce que paraîtrait qu'il est beaucoup dans le secteur de Sainte-Foy actuellement aussi. On a eu des textos par rapport à ça, d'ailleurs, des gens qui l'auraient croisé. Sinon, ben c'est la fête du Canada demain, que vous soyez pour ou contre cette fête-là. Ça reste quand même une journée agréable, c'est une journée de congé. J'ai l'impression, dans ma jeune vie de 39 ans, d'avoir rarement vécu dans un... Canada aussi uni.
Ah, t'as tellement raison,
Est-ce que je
là.
vais trop loin en disant ça? Parce que j'ai vécu ça, moi, les guerres entre le... Je pense qu'Antonine, elle vient d'un peu
Oui, mais
vomir
les
dans
derniers
sa bouche.
sondages sur l'unité canadienne, jamais ça a été aussi haut.
Mais bon, fait que ça le confirme, que cette impression-là d'avoir vécu dans une famille, dans des familles où il y avait des fédéralistes, il y avait des souverainistes. La bisbille a pogné dans des parties de Noël où est-ce que j'entendais mon père dire « Pack les petits, on s'en va » parce que ça chicanait à cause des Canadiens puis des Nordiques. Tu sais, on a vécu dans cette époque-là, fin des années 80, milieu des années 90 aussi. Mais en ce moment, j'ai cette impression-là où est-ce que les gens sont... Plus dans une espèce de mindset de je dis pas non à la souveraineté, mais il va falloir me convaincre davantage. Il y a quand même un 39%.
C'est pas le bon moment, monsieur.
Toi, tu passes ce sujet-là là, à 18h, là.
Oui, c'est
fait que je
peut-être
pourrais
pas.
même pas te répondre. On s'en reparle jeudi.
Non, mais,
Oui,
non,
mais jeudi, on pourrait revenir par rapport à ça. Parce que
absolument.
moi, je suis pas contre, mais je suis ce gars-là. Sachez-le, je suis cet animateur-là à Boulevard 102.1 qui est pas contre le troisième lien parce que je suis pour le tramway. Je suis pour les deux si vous me montrez quelque chose qui a du bon sens
Ah
comme
oui.
plan. Même affaire avec la souveraineté, je te dis pas que je suis contre, mais arrive-moi avec un plan qui a du bon sens.
Plus logique qu'un livre bleu, mettons.
Puis... Ton livre bleu, je ne lirai pas si tu me le balances en pleine face 12 heures après qu'il y a eu une des fusillades les plus importantes de l'histoire de Montréal.
Ouais.
Ça se peut que je ne le lise pas à ce moment-là, ton livre bleu, puis ça se peut que je te regarde et je fasse comme « Pour vrai, buddy, là,
C'est pas le moment, monsieur.
ça te tentait pas
C'est
d'attendre
ça.
2 secondes et demie pour peut-être... » Tu sais, mais je suis pas fermé à rien du tout, du tout, du tout, du tout. Ceci étant dit, il y a quand même, au niveau musical, quelque chose qui nous rassemble tous. C'est-à-dire des artistes, des musiciens, des musiciennes canadiens qui sont excessivement talentueux. Et ça, ce sera souligné demain avec l'ami
Oui, à
Colosse.
partir de 10 h demain, je vous le rappelle, le meilleur rock canadien des années 90 à aujourd'hui, à chaque début d'heure, des doublés de tunes rock. Et demain, on va aussi vous jouer la nouvelle chanson que Bryan Adams va lancer, qui s'appelle 51st State, qui est pour dire que le Canada ne sera jamais un 51e État. Depuis quand il fait de la chanson politique?
C'est nouveau, ça. Petit extrait. Give it to you straight. Ma maison. Mieux de montrer du respect. Parce qu'on tient.
Parce qu'on pourrait la mettre à tous les jours.
On prend soin de nous ici au Canada. N'est-ce pas, Antonine?
Ça suffit.
On prend
Et tant
soin
que ce
de nous
show-là finisse.
Au Canada. Hey, ça a été un plaisir de vous accompagner dans votre retour à la maison. Mercredi, demain, programmation spéciale. Nous, on se retrouve même heure, même poste, jeudi. Merci de faire confiance à Boulevard 102.1.
Boulevard.
Checklist de vacances.
Un speedo, crème solaire, l'application Boulevard 102.1.
Gratuit sur App Store et Google Play.
102.1.
Tout l'été, Boulevard est 100% parlé en ce moment. Marceau le matin, dès 6h. Le Point de Max, 10h. On en jase, midi. Le retour de Boulevard, à 14h. Et Marceau le soir, à 18h. Boulevard 102, 100% parlé, tout l'été.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir, le soir, le soir.
C'est un plaisir de l'avoir avec moi ce soir. C'est quelqu'un que je respecte énormément puisqu'il est dans le milieu du communautaire depuis des années et des années. Il aide les moins bien nantis et il fait une différence dans la société. On veut tous être un peu de cet individu-là à qui je vais parler ce soir. Son nom, c'est Éric Boulay, le directeur général de l'Aube-Rivière, un organisme qui vient en aide aux gens qui qui ont des difficultés. Salut Éric Boulay, comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien.
C'est la première fois que tu te fais dire ça, qu'on veut tous être des Éric Boulay, parce que moi, je te considère comme un héros. Je reste dans le secteur où toi, tu travailles. Et quiconque t'a déjà rencontré sait que tu travailles extrêmement fort pour aider les moins bien nantis de notre société. On t'aime, Éric!
Ouais, je comprends, mais moi, je prends ça qu'un grain de sel. Là. C'est mon travail, je suis payé pour ça. Oui, c'est ma passion, puis j'ai la chance de faire de quoi que j'aime, qui me nourrit, alors je ne ferais pas d'autre chose. Quand on a la chance d'être sur son X, à la place où tu te sens bien, ben,
ouais.
Moi, étonnamment, quand j'ai commencé à l'Aube-Rivière, il y a bientôt 30 ans maintenant, ben, je faisais ça pour vouloir essayer d'aider les autres. Là. Après ça, j'ai appris que on se soigne un peu en faisant ça aussi en même temps.
C'est vrai.
Mais beaucoup plus tard, puis avec du recul, ben j'en ai reçu beaucoup plus que j'en ai donné. Moi, c'est sûr que c'est moi qui ai le porte-parole un peu. Ça fait qu'on m'entend plus, mais j'ai des gens dans mon équipe qui sont encore plus en feu. Moi, je peux l'être des fois, là.
Mais tu
fais... équilibre, j'ai une famille, j'ai d'autres activités, j'ai pas juste l'Aube-Rivière dans ma vie.
Ouais. T'es très humble, mais effectivement, t'as une équipe qui travaille extrêmement fort. Comment t'en es venu à travailler pour le communautaire? C'est vraiment une initiative personnelle? T'as commencé bénévolement?
Écoute, ça a commencé quand j'avais 9 ans. Moi, quand j'étais jeune, mon père avait des problèmes de dépendance à l'alcool.
Oh.
Puis même si c'était quelqu'un qui était très dévoué, puis même mes amis ados, là, ils ne savaient pas tout là, qu'il y avait cette problématique-là. Puis écoute, il était directeur de banque pour la banque provinciale à Baie-Saint-Paul, qui est devenue la Banque nationale. Fait, il était impliqué dans sa communauté, etc. Puis tu sais, il pouvait, là, c'était un alcoolique situationnel, c'est-à-dire qu'il pouvait ne pas boire pendant un an, deux ans des fois. Puis là, quand il partait sa brosse pendant deux, trois semaines, là, souvent, comme dans le coin de Noël ou les vacances d'été, là, ben, il n'était plus capable de s'arrêter, puis il n'était pas du monde à ce moment-là. Là. Il changeait tout au tout. T'sais. Alors moi, j'ai appris très jeune la différence entre la personne, l'être humain, puis les comportements qui sont induits à sa dépendance, puis ce qu'on peut faire. Puis des fois, on va juger les personnes sur comment ils se comportent dans cet état-là, mais en dessous, là, mon père, c'est une perle. Il me suivait dans mes compétitions de karaté jusqu'à Boston, partout. On restait à Baie-Saint-Paul, puis on montait deux soirs par semaine parce que j'étais rendu trop avancé au karaté pour rester à Baie-Saint-Paul pour avoir les cours. T'sais. Puis même en tempête de neige au mois de janvier, là, t'sais, puis c'est lui qui allait nous reconduire, faire de la glissade quand on était jeunes, tout moi et mes amis. Puis, t'sais, c'est quelqu'un de très, très présent. Mais il n'était pas du monde quand il prenait un coup. Fait que cette grande sensibilité-là, j'ai eu la chance parce que je trouvais ça très, très dur quand j'étais jeune de vivre ça. Puis il y avait comme le tabou qu'il ne fallait pas en parler non plus. Fait qu'on était comme emprisonné là-dedans. Là. Mais en même temps, je ne ferais pas cette carrière-là si j'aurais pas eu ce défi-là dans ma vie de développer cette sensibilité-là et cette compréhension-là. Je pense que j'ai compris que peu importe tes capacités ou tout le monde peut être à risque de sombrer dans la dépendance, peu importe sa classe sociale, peu importe son état. Et là, c'était dur pour moi parce que je voulais faire plaisir à mon papa. Alors, j'ai développé moi un peu des traits un peu narcissiques quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que j'ai confondu performer. Plus tu performais pour moi et plus tu étais aimé. Fait que, j'avais des bonnes notes, j'avais plein d'affaires. Mais en même temps, quand je suis arrivé au cégep, il faut que tu travailles aussi. Hein. Tu ne peux pas juste avoir des bonnes notes et te penser bon. Là. Puis j'ai eu mes premiers échecs. C'était très, très dur. J'ai eu un bout de tough à ce moment-là. Je devais avoir 17 ans. Ouais, vraiment, même penser à m'enlever la vie, Yannick, pendant un bout. Oui, vraiment. Puis je suis passé au travers de ça. Puis ça a été drôlement fait parce que je tombé d'un quelqu'un de performant qui fait du karité, tout ça, à travailler dans un bar rock à l'Arlequin pour payer mes études à la rue Saint-Jean. Puis j'ai rencontré du monde qui sont pas en tout dans performance, puis sont des perles, qui ont, tu sais, une opportunité, là. Puis là-dedans, j'ai un de mes amis, qui est encore mon ami aujourd'hui, qui me dit, toi, t'es vraiment une bonne personne, tu devrais t'en aller plus là. Fait que moi, je suis tombé du campus sur Notre-Dame-de-Foy en sciences pures à Cap-Rouge, au mois de janvier, au cégep de Limoilou, en sciences humaines, avec politique et sociale. Et là, je suis tombé dedans.
Right.
Je dis, OK, il y a d'autres choses dans la vie. puis c'est tellement dur d'être soi-même.
Mais moi aussi, j'ai été au cégep de Limoilou, on a ça en commun, c'est juste que j'étais plus présent au petit bar à côté du cégep qu'au cégep même, là. Mais moi aussi, j'étais là.
Puis là, ben, cet ami-là me dit, il vient donc faire du bénévolat au centre de prévention du suicide. Il savait par quoi j'étais passé un peu. Puis j'ai commencé à 18 ans au téléphone à écouter les gens, puis à intervenir. Ouais, ça a commencé jeune. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis fait que j'ai dit, moi, je vais faire une carrière en relations d'aide. Puis j'ai fait une maîtrise en sciences d'orientation, en counseling, avec une spécialisation en organisation communautaire. C'est ça que je voulais faire. Puis c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis j'ai eu cette. Tu sais, là, notre développement est un mélange de notre bagage, notre potentiel qu'on a, de l'environnement qu'on subit aussi. Puis il y a aussi, moi je pense à un tiers, il y a un tiers de chance puis de rencontre aussi. Là. T'sais, on n'est pas tout le résultat de nos affaires. Fait, tout ça mélangé fait qui je suis. Quand j'ai terminé ma maîtrise, moi et mon père d'ailleurs est décédé en 97, le 30 décembre 97, je suis parti 3 mois en Europe, PACSAC. Puis quand je suis revenu, ce même ami-là, qui était rendu intervenant, le premier intervenant à l'Aubrivière, qu'on avait été engagé par les communautés religieuses à l'époque, me dit « Écoute, les communautés voudraient qu'on mette un peu de professionnalisme dans ces belles valeurs-là, puis cette belle mission-là. » Fait que moi, je suis arrivé là, puis on était 2 intervenants pour la ressource. Aujourd'hui, là, il y a 168 employés à l'Aubrivière, dont 132 postes de gens qui font vraiment une différence. Mais tu sais, on a commencé à mettre une évaluation psychosociale, un plan de sortie, des procédures en cas de crise suicidaire, en cas de toutes sortes d'affaires. Tu sais, il n'y avait rien quand on a commencé. Il y avait beaucoup de bon cœur, puis beaucoup de respect, puis d'amour. Puis tu sais, notre mission, il l'a, hein, respect et amour. C'est de même que ça a commencé à l'Aubrivière, puis... Là, je t'ai tout compté ma vie en 2 secondes, là, mais c'est pour ça que je suis là. Puis c'est pour ça que je me sens sur mon X. Puis c'est pour ça que je ne ferais pas d'autre chose que ça.
Ouais. Puis on le sent là, que c'est vraiment ta passion, le communautaire. Puis tu travailles extrêmement fort. Puis j'imagine que ton équipe est probablement à l'image de toi, qui est à la tête de l'Aubrivière depuis déjà quelques années. Est-ce que tu t'attendais un jour à diriger ce genre d'organisme-là? Est-ce que c'était un objectif de vie que tu t'étais donné?
Zéro. 000. D'ailleurs, j'ai déjà refusé de l'être. Moi, en 2001, à l'époque, il y avait Hugo Lépine, qui était directeur général de l'Aubrivière.
Ouais.
Lui, il avait des propos qui étaient plus croustillants que moi aux ondes radio. Alors, il a aidé beaucoup à mettre l'Aubrivière sur la map là, avec ces discours-là. Maintenant, lui, il a cru en moi, même à la limite, plus que je le croyais. Là. Moi, j'étais intervenant psychosocial, puis j'étais heureux de ça. Là. Alors, en 2001, il m'a demandé d'être coordonnateur clinique de l'Aubrivière. Écoute, je devais avoir 27 ans, une affaire de même. Là. Puis j'ai dit, moi, gestionnaire, écoute, c'était pas mon plan. Là. Moi, je veux aider le monde. T'sais. Il dit, oui, mais tu y crois tellement que tu vas aider les gens à aider le monde. Alors, en 2001, je suis devenu cadre à l'Aubrivière et ça a duré pendant 10 ans, ça, où j'ai été coordonnateur clinique. Puis en 2005, Hugo est parti, puis je me rappelle, le conseil d'administration avait dit ça serait peut-être intéressant que tu prennes l'intérim. J'ai dit non, moi je ne suis pas gestionnaire. Alors j'ai dit ma collègue Chantal, qui est super bonne, qui l'a fait de 2005 à 2011, directrice, j'ai dit, qui était cadre avec moi à l'époque, j'ai dit moi je pense que. Elle étudie là-dedans, elle serait bonne, puis etc., etc. Mais tiens, même à l'époque, puis Hugo nous avait montré ça, moi, j'ai demeuré avec le principe de gestion participative. Alors que ce soit Hugo, Chantal, moi, même mes collègues, Frédéric, Benoît, Jean-Philippe, tout ça, c'est pas le directeur, les coordonnateurs, là. Il y a l'équipe de direction, on travaille ensemble, on travaille avec nos responsables, on a des comités sur 150 000 raisons, là. Oui, c'est plus long, mais on décide ensemble où on s'en va. Moi, j'irais pas dire à mes intervenants de travailler comme ça, là. Des fois, quand je vois qu'ils s'en vont dans un piège que j'ai déjà vu, je lui ai dit, ben, en tout cas, peut-être qu'on peut réfléchir parce que là, moi, j'ai déjà vécu ça, mais t'as vu ça. Fait que, tu sais, il y a un échange de sagesse puis de partage. Alors non, je ne voulais pas faire ça, puis j'ai même déjà refusé. Mais quand Chantal est partie en 2011, ben là, j'ai dit, écoute, je peux vous dépanner. C'était le 6 juin 2011. Ça veut dire que ça a fait 15 ans que je suis directeur. Je fais ça tout récemment. Puis, tu sais, j'ai dit, écoute, je peux le faire pendant l'été, par intérim, là, tu sais, jusqu'à l'automne, pour qu'on puisse... depuis ce temps-là, je suis resté là,
Vous avez aidé combien de personnes depuis que tu es à l'Aubrivière? Vous avez aidé combien de personnes, selon toi? Année après année, c'est combien de gens qui ont besoin d'un organisme comme l'Aubrivière pour aller manger, pour se loger?
je ne sais pas si on aide tout le monde qu'on accompagne, là.
Je pense que
mais
oui.
On peut dire qu'on a accompagné. Au début, là, c'était en bas de 5000 personnes différentes par année. Là, maintenant, on se roule le 6000 personnes différentes par année. Et il y a beaucoup plus de personnes différentes qu'avant parce que dans les trois dernières années, la moyenne des nouveaux visages, c'est 70 %, hein, t'sais, de gens qui n'ont jamais connu la rue, jamais frappé à la porte d'un refuge, qui viennent à l'Aubrivière. Alors, malheureusement, c'est beaucoup de personnes. Écoute, moi, je ne sais pas combien, 140 000, je ne sais pas, tu sais, faudrait calculer. Là-dedans, il y en a qui reviennent, tu sais, t'as les gens qui sont en situation d'itinérance situationnelle, qui représentent à peu près la moitié des gens qui viennent à l'Aubrivière, tu sais, qui viennent une fois, puis là, on les accueille, on évalue leurs besoins. Puis avant d'être là, aujourd'hui, dans la journée, j'ai fait le tour de mes équipes pour savoir comment ça va, est-ce qu'il y a des nouveaux angles qu'on n'a pas vus, puis tout ça. Puis non, ça reste la même chose. Il y a beaucoup de nouveaux visages, malheureusement, qui viennent. Puis il y a un autre 40 % des gens qui, même si on trouve un logement demain matin, ça ne fonctionnera pas s'il n'y a pas d'accompagnement qui vienne. Puis eux autres sont volontaires à vouloir cet accompagnement-là, sauf que ils ne sont pas capables par eux-mêmes. Puis là, je ne veux pas être infantilisant, là, c'est que si on les accompagne, je pense à notre programme porte-clés où on est 8 organismes ensemble avec Pêche et compagnie, là. Puis, on accompagne les gens dans leur logement et même dans les logements de l'Aubrivière qu'on a maintenant, on a une agente au logement qui accompagne les gens. Ça, c'est dans l'autre 40 % où ça prend plus d'aide. Puis ça fait bien. Puis là, il reste un 10 % de gens sur les 5000, peut-être 500 personnes, hein, 600 personnes, qui, eux, là, pour la moitié de ces gens-là, ben, tu sais, eux peuvent revenir plus de 20 fois par année. Puis souvent, on associe l'itinérance à cette portion-là, à l'itinérance chronique, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça, les situations d'itinérance. Et pour ces gens-là, oui, on a des outils, que je l'ai nommé, par exemple, la fiducie, ou maintenant, le programme PRISM, hein, où on a 24 lits au programme PRISM, où il y a des gens qui viennent puis qu'on prend en charge qu'avant, on n'était pas en mesure d'aider parce qu'on a un psychiatre qui vient sur place. On a une équipe assez musclée. Puis des gens, là, écoute, il y a une dame, ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans la rue puis qu'on n'a pas de eye contact. Tu sais, je te l'avais déjà compté, je crois.
Ouais.
Puis encore la semaine passée, je l'ai croisée puis j'ai demandé, puis comment ça va? Je vais finir bientôt mon programme, ça va bien. Puis je parle avec, j'avais jamais, ça fait longtemps que je la connais. Tu sais, ces situations-là me font dire, mais mon Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Là. Il y a des situations très désespérantes, là. Mais c'est à peu près ça, le nombre de personnes qu'on accompagne, qu'on aide.
Si je te demandais, Éric, le profil type des gens qui fréquentaient les organismes comme le tien, il y a de ça 10 ans, et maintenant, c'est quoi le profil type des gens que tu rencontres?
C'était plus facile, ben, mettons, disons, il y a 20 ans, plutôt qu'il y a 10 ans, là, mais c'était beaucoup plus facile à l'époque de faire le profil type. Parce que la grande majorité, c'était des hommes alcooliques chroniques dans la quarantaine, cinquantaine. Ça ressemblait à ça, là, des gens qui n'ont pas su garder le logement parce que soit ils se sont isolés ou soit la famille était tannée ou x, y raison. Puis ça me permet de prendre l'occasion de défaire un préjugé que j'entends souvent.
Ben oui, ça sert à ça.
Ouais. Depuis que l'Aubrivière a déménagé, on donne tellement des bons services qu'on attire l'itinérance. Là. Ça, c'est pas vrai. Hein,
à quel point, les gens ils parlent sans connaître?
Non, mais c'est je trouve ça... Moi, je trouve ça peut être normal de penser ça. Je ne condamne pas le fait de penser ça, mais chiffre à l'appui, là, depuis que je travaille à l'Aubrivière, on a toujours le tiers de la clientèle qui vient d'abord de plus petits centres, c'est-à-dire, mettons, Côte-Nord, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, ouais. Qui ont utilisé, ils ont brûlé les ressources disponibles ou ils veulent connaître l'anonymat dans un plus grand centre puis penser refaire leur vie dans un plus grand centre, là. Puis ils vont d'abord aller à Québec, ils ne viennent pas directement à l'Aubrivière nécessairement, il y en a oui, mais puis là, ben, ça ne marchera pas plus, cette thérapie géographique-là ne marche pas. Là. Fait après ça, ils viennent à l'Aubrivière. J'ai un autre 30 % que c'est la grande région de Québec, puis j'ai un autre 30 % de gens qui sont vraiment proches, c'est des gens de Québec, là. Okay. Alors c'est un tiers, un tiers, un tiers, puis ça n'a pas changé. Fait que pour revenir à ta question là, de clientèle type de Lauve-Rivière, où, aujourd'hui, je ne serais plus capable de le faire, ça, parce que c'est trop éclaté. J'ai beaucoup de personnes vieillissantes, j'ai beaucoup de jeunes aussi. Il y a de plus en plus de femmes, il y a des travailleurs, on en avait moins avant. Là, on en a, des gens qui ne sont pas capables de payer leur logement, là, de plus en plus, c'est ça.
Mais je vais te dire, moi, c'est ce que je vois. Lauve-Rivière est juste à côté de chez moi, à 30 secondes. Et c'est des pères et des mères de famille qui sont là, qui donnent tout pour leurs enfants. Pendant que les enfants sont à l'école, ben, ils vont faire un tour à Lauve-Rivière pour se nourrir, pour avoir de l'information, pour des services d'aide et tout ça. Oui, il y a encore des gens qui sont aux prises avec la toxicomanie, l'alcoolisme. Il y a des gens qui sont issus de l'itinérance aussi. Mais comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont des logements. C'est tellement cher, les logements, qu'ils passent tout l'argent dans leur loyer, mais sont pas capables de se nourrir. Donc, ils vont faire un tour à Lauve-Rivière. Puis, il y a aussi cette itinérance fantôme qu'on connaît à Montréal et à Québec, où il y a des gens qui empruntent le sofa d'un de leurs amis ou qui dorment dans leur voiture. J'en ai, moi, dans mon stationnement souterrain, deux personnes qui dorment dans leur voiture. Donc, ils se louent un stationnement. C'est 100 $ ou 110 $ par mois. Ils dorment dans leur voiture, puis le jour, ben, ils font de l'errance au travers de la ville, puis ils essaient de se sortir de l'itinérance avec des organismes comme le tien. Puis il y a aussi des travailleurs, et ça, je voudrais parler du salaire des gens qui travaillent dans le communautaire dans les prochaines secondes, mais des travailleurs qui font 40 heures par semaine, la conjointe fait 40 heures par semaine, sont pas capables d'arriver, et ils se ramassent à Lauve-Rivière. Des gens qui travaillent pour des organismes dans le communautaire, Eric, et ça, je trouve ça extrêmement cruel, parce qu'on a besoin de gens qui travaillent dans le communautaire, mais les salaires sont pas assez élevés. Donc, les gens se ramassent à Lauve-Rivière avec des gens qui aident dans leur propre organisme. Eric, c'est une roue sans fin, là.
Absolument. Je fais la blague des fois avec mes collègues. Là. On a des gens pauvres qui aident encore plus pauvres. Là.
Oui, c'est ça. Exact.
Là-dessus, par contre, là, tu sais, moi, avant de fixer, j'aime pas ça parler de salaire. C'est jamais chic. Les gens ils disent bon, on donne, puis c'est pour payer des salaires. Là.
Non, mais c'est jamais assez élevé, les salaires, Eric. Là, ouais. Je veux dire, les salaires dans le communautaire, là, c'est pas les mêmes salaires qu'on voit ailleurs. Là. Moi, je te le confirme.
Non, je comprends, mais. Par rapport aux autres organismes communautaires, Lauve-Rivière, on est en belle position. T'sais, on fait l'étude un peu des salaires des autres, puis on a réussi à aller plus loin. Mais là-dedans, là, quand même, tu auras. En fait, les gens qui étaient mieux nantis avant ont baissé leur pouvoir d'achat aujourd'hui. Fait que, tu sais, en fait, là, les gens vont s'endetter aussi à la hauteur de leur capacité. Fait que tout le monde est pris un peu dans cette roue-là de vulnérabilité, de ne pas être capable de payer assez parce que le pouvoir d'achat diminue. Le pourcentage mis à se nourrir ou se loger est trop grand par rapport au reste. Puis les travailleurs du communautaire, qu'est-ce qui fait que les gens, qu'il y a des gens qui restent longtemps à Lauve-Rivière, là, les gens me disent qu'il n'y a pas juste le salaire, par contre. T'sais, il y a la capacité justement de travailler ensemble et d'avoir un sens à ce que tu fais. Puis aussi, bien évidemment, même si on n'a pas des salaires, par exemple, qu'on aurait en commençant au CIUS, la capitale nationale, bien, tu sais, on a quand même des bonnes conditions parce que moi, j'ai pas de congé de maladie. Là. C'est des congés sociaux. Tu n'as pas besoin de t'inventer une gastro. Là. On travaille avec les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, même chose, là, on offre le stationnement à côté. Les gens. On paye le gymnase, ces choses-là. Fait que, on a des choses qui font qu'on travaille ensemble et qu'il y a un sens à ce qu'on fait.
Ouais.
Mais maintenant, est-ce que, toute proportion gardée, quand tu es deux intervenants le samedi matin au centre de jour à gérer 130 personnes en même temps, écoute, pour moi, ils pourraient gagner 4 fois plus cher, ça serait insuffisant, comprends-tu? Mais en même temps, moi, j'ai pas de sauce à spaghetti à vendre, puis j'ai pas de restaurant ou j'ai pas de commerce, fait qu'on n'a pas de revenus. On vit des dons du public, puis les gens nous font confiance, heureusement. C'est pour ça qu'on y arrive année après année, à cause du support des gens. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, c'est toujours assez insuffisant tout ça, là. Mais en même temps, si n'importe quel économiste, moi, je suis pas économiste, te dirais que si on monte le salaire des gens, bien, le prix des affaires vont monter. Tu sais, c'est le pouvoir d'achat qu'il faudrait qu'il augmente et non pas les salaires, comprends-tu? Dans l'économie, c'est ça, là. C'est la capacité avec ton revenu de mettre un moins grand pourcentage sur tes besoins de base.
Éric Boulay, tu as la chance de parler avec des échevins qui passent régulièrement à l'Aube-Rivière de par ton métier. Tu as la chance de rencontrer ces gens-là qui s'intéressent à l'organisme. Moi, je suis obligé de les rencontrer là, parce que sans quoi je les rencontrerai pas. J'ai de la misère avec les politiciens, tu le sais bien. Mais as-tu l'impression qu'ils sont très alertes et très au fait de ce qui se passe dans le secteur, dans les gros centres-villes comme à Québec ou encore comme à Montréal, sont très conscients de ce qui se passe au niveau de l'itinérance, la toxicomanie, l'alcoolisme, les gens qui sont sans toit. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ça?
Ben, je ne peux pas parler pour tous les politiciens, je ne connais pas tout, mais c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Puis il y a vraiment de belles et de bonnes personnes qui sont vraiment connectées sur leur milieu. Je pense à Hélénie Lepage dans Saint-Roch, là, tu sais, qui fait un travail remarquable, là, même chose, Marie-Pierre Boucher a travaillé fort pour, parce que là, il y a eu des élections, mais avant les élections, pour rallier les quatre partis ensemble de façon non partisane,
ouais,
pour travailler. Alors, je pense qu'au niveau municipal, il y a une grande connexion. Puis là, je ne prends pas parti là, pour un parti ou un autre, là, parce que dans l'ancienne administration, je m'entendais bien avec l'équipe de M. Villeneuve. Je m'entendais bien aussi avec M. Malençon et compagnie. Même chose là, pour les gens qui sont à l'opposition maintenant. Tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui veut, qui est d'accord avec cette souffrance-là, honnêtement. Mais par contre, ce que je sens des fois, c'est qu'il y a une impuissance qui n'est pas communiquée, par exemple. Tu sais, parce qu'on n'a pas de baguette magique. Puis là, ben, tu sais, on devrait le dire, ça, me semble. Mais tu sais, on est impitoyable avec nos politiciens. Là. Si les gens commencent à dire, hey, je ne sais plus trop quoi faire. Mais là, on votera pas pour eux autres, je sais pas. Tu vois comment je connais pas ça, ce bout-là. Là. mais tu sais, parce que nous, on a envie de l'impuissance au quotidien, même si on a des belles réussites, puis même si, comme je te disais, on a vu des miracles. Mais tu sais, de voir une grande augmentation du nombre de demandes comme ça, puis moi, je suis comme une hémorragie de nouveaux visages qui arrivent à l'Aube-Rivière, tu sais. Alors, on vit cette impuissance-là, puis on se dit, tant aussi longtemps que l'organisation de nos CCT va être comme ça, parce que les facteurs de risque sociétal ont augmenté beaucoup, tu sais, on vient de le dire, l'économie, l'accès au logement, l'accès préventif à des soins en santé mentale ou en santé physique, c'est tous des facteurs de risque. Alors, les politiciens que je conçois, maintenant, aux autres paliers de gouvernement provinciaux, ben j'ai des grands échanges, je parle beaucoup régulièrement avec Jean-François Simard, avec beaucoup de politiciens, M. Carman aussi, qui a été très présent à venir, puis qui a investi. Ben, tu sais, honnêtement, je pense que c'est insuffisant, même s'il y a beaucoup plus d'argent qu'il y en avait avant. L'itinérance, c'est pas seulement une question d'argent. Tu sais, il y a aussi, on l'a dit tantôt, la loi 23, il y a une réflexion sur l'offre des services, il y a une réflexion aussi sur l'abordabilité du logement, tout ça. Mais c'est sûr que si on avait plus de sous en amont, avant, en prévention, avant que ça arrive, s'il y avait plus de services, ben, on n'en serait pas toujours à être dans le curatif. L'Aube-Rivière, notre rôle premier, là, c'est d'être le dernier recours. Et là, trop souvent, on est rendu le premier recours. Ça marche pas.
Éric Boulay, je vais essayer de t'achaler un peu, mais je sais, je connais déjà ta réponse. On a l'impression qu'on n'a jamais mis autant d'argent pour aider les pauvres, puis on a l'impression qu'il y a de plus en plus de pauvres, Éric. C'est quoi la solution pour sortir tout ce monde-là des problèmes dans lesquels ils se sont embourbés ou encore des problèmes qu'ils ont eu en raison de... Parce qu'on ne naît pas tous avec la même chance. Là. Il y en a qui naît, qui sont un peu plus chanceux que les autres. Est-ce qu'on réussit majoritairement à sortir les gens de la rue? Parce que vous nourrissez les gens, mais aussi vous avez des services avec d'autres professionnels, d'autres organismes pour sortir ces gens-là de la rue. L'argent qu'on met là-dedans en tant que contribuable, Éric, ça sert-tu? Tu le vois-tu, le positivisme? Puis si oui, peux-tu nous en parler?
Ben, il y a plusieurs niveaux dans ta question. Puis là, ben, il est rendu tard. Là. Mais là, il y a une partie là, de ce que... Moi, je vais parler pour l'Aube-Rivière. Fait que je ne peux pas parler pour l'ensemble des sous qui est investi partout. Je ne suis pas partout. Mais pour l'Aube-Rivière, je peux te garantir que tout ce qu'on met comme argent à l'Aube-Rivière nous empêche que ça nous coûte plus cher d'un autre poche. Parce que chaque sou que tu investis dans l'Aube-Rivière va faire que ça va coûter moins cher en service d'urgence ailleurs, moins cher en... Tu comprends? Et si ça aide, écoute, une personne sur deux, nous, on les remet sur pied et on ne les reverra plus, là, parce que ça va bien. Là.
50 %? 50 %? Ah oui!
Bon, le problème, c'est que c'est insuffisant. On peut, le nombre, le besoin ou les nombres de demandes dépassent la capacité de l'organisme à le faire parce que, comme je l'ai dit, en prévention, il y a quelque chose où on l'échappe là, dans l'organisation de nos sociétés. Puis ça, là, je veux reculer encore pour l'expliquer davantage, mais il n'y a pas de. Si je savais clairement c'est quoi les causes de l'itinérance, on aurait réglé ça. Puis en itinérance, ce sont des facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque qui sont associés avec ta situation personnelle. Si tu as des problèmes de dépendance, tu es plus à risque de perdre ton travail, par exemple. Si tu as des problèmes de santé mentale, tu es plus à risque d'être moins performant, par exemple. Et on veut trop souvent expliquer l'itinérance juste là-dessus. Et on oublie les facteurs sociétaux. Je viens de le dire. Écoute, une personne sur cinq au Québec va avoir de la difficulté à payer leur logement le prochain mois. Une sur cinq. Est-ce que ça crée de l'itinérance? Pas directement. Ça fait une société plus vulnérable, qui fait que quand il t'arrive une épreuve, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, une maladie physique, ben, tu n'es pas capable de passer au travers comme avant. Tu comprends-tu? C'est oui. Ça les facteurs de risque. Alors, il n'y a pas juste une question d'argent. Il y a question. Alors, moi, je trouve que ce qu'on met dans le communautaire, bien que ce soit insuffisant, c'est investir. Là. Il y a eu l'étude des coûts d'itinérance en 2023 au sommet sur l'Union des municipalités. Là. Ça coûtait 72 000 $ par année laisser une personne à elle-même dans les réseaux publics. Écoute, si c'est ça, ça coûte bien plus cher laisser les choses aller que d'investir en itinérance. Il y a beaucoup plus d'argent qu'il y en avait qui était mis. Moi, je trouve que c'est insuffisant dans le sens où si tu en mets plus, ben, il va y avoir plus de gens d'aider. Ça va être des gens qui sont plus aptes aussi à contribuer à la société, redonner, à être sur un chèque de paye, puis que leur impôt serve à aider d'autres mondes aussi. Comprends-tu? Là, si on regarde l'Institut de la statistique, ça aussi, je ne m'y connais pas, fait que je parle encore de quelque chose que je ne parle pas, mais demain, là, dans 10 ans, 20 ans, ben, il y a peu de gens qui vont contribuer pour le reste des gens. Parce que la courbe démographique s'en va en baissant. Fait que, tu sais, c'est pas rose tout ça. J'étais avec un ami en fin de semaine qui m'expliquait tout ça, lui, qui travaillait au gouvernement, qui m'expliquait ça clairement. Écoute, après, j'étais allé de misère à m'endormir après. Tellement c'était pas rose. Là.
Je vais te faire des chiffres ronds, Éric. Là. Hein? Au Québec, là, on est 9 millions de personnes. Au Québec, il y a 2 millions de payeurs de taxes pour faire vivre le 7 millions qui restent. Pensons-y, là. Il y a des enfants là-dedans, il y a des personnes âgées, il y en a qui ne gagnent pas assez cher pour payer de l'impôt. Donc, c'est 2 millions de personnes qui payent pour 7 millions, pour un total de 9 millions. Il n'y a pas assez de riches au Québec, il y a trop de pauvres. Donc, il faut essayer de trouver une façon de faire en sorte que tout le monde puisse avoir... Comment dirais-je? J'essaie de ne pas aller dans les préjugés, mais il faut essayer de trouver une façon que tout le monde puisse avoir son compte puis que personne manque de toit sur la tête ou personne manque de nourriture. Mais à 2 millions de payeurs de taxes versus 7 millions qui sont là pour avoir des services mais qui ne payent pas pour, c'est pas viable à long terme comme modèle. Faut
Alors,
trouver des façons de s'en
sortir.
Alors,
tu viens de me donner la meilleure raison de dire c'est important de prendre soin de nous.
Oui, oui.
Meilleur argument. Exact. Plus on prend soin de nous, mieux on peut faire une société saine avec une meilleure qualité de vie. Il y a des modèles qui ont réussi un peu à faire ça là, parce qu'ils ont investi dans la qualité de vie et le bonheur collectif. Là. Puis ils ont récupéré ça. Des fois, ça a pris du temps de faire ça.
Ouais.
Alors, voilà.
T'as-tu de beaux exemples que tu as vus dans ton organisme dans les dernières années de personnes qui sont arrivées, qui l'ont échappé dans la vie puis qui sont ressorties des grands gagnants de tout ça?
Ah ben oui, mais ça, j'en vois régulièrement. Régulièrement. Au mois de septembre, on fête le 20e anniversaire de l'Aube de l'emploi. Ça, c'est notre plateau d'employabilité où on aide les gens à apprendre le métier d'entretien ménager. Ils ont une formation de 4 mois. Après, ils font un stage pendant 4 mois. Puis on se fait une fête au mois d'octobre. Une fête. C'est un dîner où on va jaser, là, tu sais.
C'est-tu les gars et les filles qui font le ménage au centre-ville, là?
Oui.
Ah oui, wow!
Okay. Non. Ça, c'est l'autre projet. Ça, c'est... après, ils sont salariés dans ce projet-là. Mais nous, on offre la formation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de participants à notre formation qui vont aller travailler là après.
Ah, good! C'est
très
bon.
Ils sont passés par là. Quand le projet est parti, les quatre premières personnes embauchées, il y en a trois qui venaient du programme de l'Aube de l'emploi chez nous. Mais ce que je veux dire, ça... Là, il y a des gens que ça fait 20 ans, là, ça fait qui ont encore leur emploi, qui vont revenir parler aux autres de pourquoi sont allés là, qu'est-ce que ça leur a fait, comment ça a changé leur vie. Alors moi, c'est ça, ça me nourrit plus que tout, là, de voir qu'on améliore des vies concrètement. Ouais.
Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que pour habiter ce quartier-là, tu sais, je les vois passer, là, ceux qui font de l'entretien ménager dans le secteur. Puis ce qui me marque, là, puis je veux pas faire de comparaison avec les gens qui font le même métier au privé, là, mais c'est de voir le sourire de ces gars et ces filles-là qui se promènent en bicycle à pédale avec leur chariot pour faire le ménage du centre-ville. Ils sont fiers de travailler, ils sont heureux de travailler. C'est de toute beauté. On redonne une fierté à ces gens-là.
C'est, ben, l'ingrédient magique, c'est ça. Pour aider quelqu'un, pour l'accompagner à aller mieux, lui, il ne croit plus en lui, acheter l'éponge, puis c'est de faire vivre des réussites, des petites au début. Quand j'ai des gens à l'urgence, hébergement d'urgence, rapidement, on les met en mouvement, tu sais, on leur demande de s'impliquer, faire le ménage. Tu comprends, même si des fois, on donne un petit balai autour de l'Aubrivière, donner un coup de main, ramasse. Parce que c'est avec ça qu'on commence à reconstruire l'estime. Puis mieux ton estime est, plus tu as la capacité de passer au travers ces aléas-là de la vie puis ces défis-là, tu comprends? Alors, il y a un ingrédient magique là-dedans, c'est certain.
Là, on a une date particulière. Demain, c'est le 1er juillet. C'est le Festival national des gens qui vont déménager. Il y a des organismes, entre autres le FRAPRU, à qui j'ai parlé hier à Montréal, où ils mentionnent qu'il y a énormément de familles qui ne sont pas capables de se trouver un toit pour la prochaine année. Même chose pour ce qui est de Québec, un petit peu moins qu'à Montréal, bien entendu, parce qu'ils sont moindres en proportion à Québec. Mais est-ce que vous attendez au pire pour les prochains jours?
Mais pas pour les prochains jours, là. Parce que, tu sais, je regardais là, le mois passé, le 1er juin, puis le 1er mai aussi, c'était à chaque début de mois, c'est un enjeu, puis de voir arriver des nouveaux visages pour trouver ça dur. Et je ne pense pas qu'il y ait demain, là, plus de gens. On ne peut pas plus déborder qu'on déborde, tu comprends? Par contre, c'est pas drastique. Le 1er juillet n'était pas ce qui était avant, là. Où c'était la fin des beaux. Malheureusement, c'est à l'année que les gens débarquent à l'Aubrivière, que ce soit l'hiver, l'été. Par contre, c'est d'année en année qu'on voit s'augmenter, et ces gens-là qui vont perdre leur logement au 1er juillet, mais peut-être qu'on va les revoir fin juillet ou au début du mois d'août. Des gens là, que tu dis, mettons, qui ont toujours resté à la même place là, pendant 15-20 ans,
ouais.
Ben oui, malheureusement, cet été, on va en voir plein de nouveaux visages de gens qui n'avaient jamais frappé à la porte de notre refuge. Puis, écoute, c'est une augmentation de 10,6% du nombre de demandes par année qu'on a. Et puis là, je te le dis, on fait bien mieux notre travail qu'on le faisait avant, puis on a plus d'outils, mais l'augmentation est telle que ça ne peut pas fonctionner là, tout le temps. C'est 10,6% d'augmentation, là, c'est quelque chose. Là. Alors oui, en effet, puis on se prépare comme on peut, mais on a décidé à l'Aubrivière de bien faire ce qu'on est capable de faire. Et on peut pas répondre à l'ensemble des besoins du Québec en une seule ressource d'urgence, tu comprends?
Ouais. Je veux revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure en début d'émission. Certaines personnes peuvent dire, ben là, il y a une trop grande concentration d'organismes qui aident les gens, ce qui fait en sorte qu'il y a comme un afflux de gens qui peuvent être problématiques, tout dépendant de la perception des gens. Moi, je vais t'avouer une chose, c'est que de savoir que dans mon secteur, on aide ces gens-là, ça me rassure. Est-ce qu'il y a des impacts dans ma vie ou privé? Il y en a. Puis des fois, je pogne les nerfs parce qu'à un moment donné, j'ai bien beau être un être humain empathique. T'sais, moi, quand je vois des seringues traîner à la sortie de mon établissement où mes enfants ils dorment, je trouve ça particulier. Mais c'est pas une majorité, ça. C'est une minorité de personnes qui vont se laisser traîner puis qui ramasseront pas leurs affaires. Puis heureusement qu'on a la fameuse entreprise qui font le ménage que je te parlais, parce qu'eux autres sont là vraiment pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de seringues qui traînent. Mais je crois qu'on devrait être peut-être un peu plus tolérant pour les organismes qui aident ces gens-là. Parce que, tu sais, est-ce que Québec est la plaque tournante des gens qui ont besoin de ce type d'organisme-là? Je ne sais pas, mais je suis très fier qu'on vienne en aide à ces gens-là, Éric. Je ne peux pas croire que les gens peuvent avoir une vision péjorative des organismes communautaires qui arrivent et qui s'établissent peut-être au même endroit. Ces gens-là doivent avoir des services. Ils n'ont pas de voiture. Souvent, ils sont à pied. Ils n'ont pas de maison. ben aussi bien concentrer ça à cet endroit-là. Là.
Ben, je ne sais pas concentrer ça ou non. Honnêtement, moi, je suis pas un spécialiste de l'organisation des services. Je vois au quotidien des gens qui viennent dans ma ressource et qui demandent de l'aide.
Mais c'est logique, Eric. Moi, dans mon cas, là.
Comprends ce que tu dis.
Pour aller habiter quelque part, ça me prend une école, ça me prend un toit sur ma tête. Ça me prend l'école très proche, ça me prend l'épicerie très proche, ça me prend le dépanneur très proche, ça me prend mon travail très proche. Bien, je m'attends à ce que les gens qui ont besoin de services aient tout très proche pour être aidés, là.
Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'itinérance prend de l'ampleur dans tous les quartiers maintenant, pas juste dans Saint-Roch. Alors, tôt ou tard, les services s'installent là où les besoins sont. C'est ça qui est arrivé. Quand Lauzière est arrivé il y a 43 ans dans Saint-Roch, là, ça fait pas deux ans qu'on est dans Saint-Roch, ça fait 43 ans. Mais tu sais, c'est parce qu'il y avait des besoins au centre-ville. Tu sais, c'est pas les ressources qui attire le monde, c'est les besoins. Les ressources s'installent là où les besoins sont. Alors là, je dois te dire qu'avec mes collègues de notre regroupement, le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, le RAIC, ben, mes amis de Val-Bélair, puis mes amis de Beauport, puis crient à dire qu'il manque de services. Il y a même un organisme sur la côte de Beaupré qui dit là, on ne sait pas quoi faire parce que vu que ça commence, ben, on a moins de ressources, puis là, il faudrait commencer à penser à. Puis même, moi, je suis originaire de Baie-Saint-Paul. Alors, à Baie-Saint-Paul, t'sais, dans Charlevoix, là, l'organisme avec Lucie Carré, tout ça, la directrice, aussi le disent. Ça grandit partout. Alors, tu sais, même avant qu'on soit déménagé, en 2018, j'ai eu ma première réunion avec l'hôtel de ville pour dire comment ça se fait qu'il y a autant d'itinérants cette année. C'est pas d'un coup sec, ça a augmenté tranquillement, d'année en année, puis on est déménagé, vois-tu, en 2020, puis en 2018, on a commencé à avoir des itinérances visibles à Québec. Puis on est toujours un peu en retard sur Montréal. Alors, si ça continue, puis si on ne change rien en amont dans l'état de nos sociétés, j'ai l'impression qu'on va se rendre au même endroit un jour. Puis ce ne sera pas de la faute des organismes. Si les organismes ne seraient pas là, ça serait bien pire que ça, tu le dis. Les gens qui ont faim et qui veulent manger, ils vont trouver un moyen de manger autrement. Là. Oui. Dans au Moyen-Âge, dans d'autres situations de survie historique, les gens ils trouvaient d'autres façons là, d'être capables de manger, puis ça, c'est pas jojo. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je suis bien content qu'il y ait un filet social. Puis derrière les besoins de base, pour ceux qui connaissent, par exemple, la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que avant de régler ces problèmes de réalisation de soi, d'estime, il faut d'abord que tu manges, puis que tu ailles un toit sur la tête. C'est ça la formule de Lauzière. Hein? On donne des besoins de base à des gens qui n'y croient plus trop, puis un coup, ces besoins de base-là réglés, mais on va créer un lien, puis avec ce lien-là, on est capable d'aller plus loin. Alors, c'est ça qui fait aussi que ça fonctionne pour plein de gens. Puis oui, moi, je pense qu'il ne faut pas centraliser tous les services au même endroit, il faut ouvrir les services là où les besoins sont. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un grand refuge comme Lauzière encore à Québec? Pas nécessairement. Est-ce qu'on a besoin de plus petits points de service? Probablement que oui. Quand on a une grande centrale de police là, qui est installée, est-ce qu'on a de plus petits postes de proximité? Oui aussi. Tu comprends ce que je veux dire? On a des postes de pompiers un peu partout. Est-ce qu'on se pose la question qu'il y a trop de postes de pompiers? Pas tant, là. Parce qu'on sait que s'il y a un feu, il faut arroser. C'est la même chose pour les blessures invisibles. Ouais. Ça prend autant de points d'accès qu'il y a de besoin, d'après moi, parce qu'on va faire une société meilleure et plus de réponses à des besoins.
Exactement. On a le plaisir de passer la soirée en compagnie d'Éric Boulay, qui est directeur général de Lauzrivière. On fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau, le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau, le soir, à Boulevard.
102-1. L'Agora du Port de Québec s'anime tout l'été. Lutte, musique, culture et spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs dans un décor unique au bord du fleuve vous attendent. Portdequébec.ca.
Vous êtes technicien ou technicienne comptable d'expérience? Et si votre prochain emploi vous offrait enfin ce que vous recherchez vraiment? Chez Matériaux Blanchet, on mise sur la confiance, la flexibilité et le respect de votre expertise. Horaires flexibles, 2 jours de télétravail par semaine, régime de retraite, assurance collective avec contribution de l'employeur et stationnement gratuit. Si vous avez de 5 à 10 ans d'expérience, venez faire carrière dans dans une entreprise solide depuis plus de 65 ans. Matériaux Blanchet, votre prochain défi vous attend. Pour postuler, matériauxblanchet.ca.
Envie de vous évader en nature? Au Centre Castor, vivez le plein air à son meilleur. Golf, vélo de montagne, sentiers de marche et une foule d'activités pour toute la famille. Mariage, banquet et événements corporatifs y trouvent aussi un décor exceptionnel. Centre Castor, des émotions, grandeur nature.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Coors Light est à 69$, puis la caisse de 24 canettes de Heineken est à 33,2$. Le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 1er juillet en magasin en ligne. Détails au superc.ca.
T'as reçu des fleurs.
Des fleurs?
Ben oui, regarde, il y a un petit mot aussi.
Félicitations, Monsieur Pépin. On apprécie ce que vous faites. Merci de planter vos arbres loin des fils électriques. Votre cour est très belle, bravo.
Coudon, ça vient de qui?
C'est signé Hydro-Québec.
Planter ses arbres loin des fils électriques pour éviter des pannes, ça mérite des fleurs.
Bon, OK. Ça filme. Salut, mes besties! Êtes-vous prêtes? On se fait un nouveau unboxing Mercado. Ben voyons donc! Ils m'ont mis l'annonceur dans la boîte!
Hey, hey, salut! Voici vos offres.
Un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ à 25 $ à l'Écoparc à Chemin et une entrée avec Air Canyon pour deux personnes d'une valeur de 52 $ à 26 $ chez Canyon Sainte-Anne.
OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter.
Au Crackpot Café, laissez parler l'artiste en vous. Choisissez votre céramique, prenez vos pinceaux et créez une pièce unique et colorée dans une ambiance chaleureuse. Entre amis, en famille ou en amoureux, vivez une expérience créative au Crackpot Café. Réservez maintenant au crackpotcafé.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
On a le plaisir de passer la soirée en compagnie d'Éric Boulay. Qui est Éric Boulay? C'est le directeur général de l'Aubrivière, qui est un organisme qui vient en aide à des milliers de personnes depuis des années. C'est le monde du communautaire. Et merci, Éric, de prendre quelques minutes ce soir pour nous expliquer comment ça se passe là, dans les organismes communautaires. Comment faire pour aider ces gens-là qui ont tant besoin de ces services-là, des gens qui peuvent avoir certains problèmes, mais qui ont besoin de manger chaque jour. Puis encore une fois, merci à ton équipe et toi de faire ça. Puis même les autres organismes, les gens qui travaillent dans le communautaire, on vous salue ce soir. Ce genre de soirée-là, ça nous permet d'abattre les préjugés, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe chez nous. Éric, les policiers qui sont dans le quartier Saint-Roch ou encore à Montréal, est-ce qu'ils exercent une certaine tolérance avec les itinérants? Est-ce qu'ils exercent une certaine tolérance avec les toxicomanes, les alcooliques?
Oui, oui, absolument. C'est compliqué. Tu sais, quand on s'en va sur le travail, et que je voudrais pas être policier.
Non.
quand tu n'arrêtes pas quelqu'un, tu te le fais dire. Puis quand tu l'arrêtes, tu te le fais dire aussi, là.
Ouais. Puis, tu sais quoi, je fais partie de ceux-là. Moi, je demande à ce que les policiers fassent leur job. Si on voit des gens qui se droguent en pleine rue, je veux que les policiers interviennent rapidement. Je veux pas qu'ils se fassent arrêter, mais je veux au moins que les policiers leur fassent une grosse morale en leur disant, il y a des enfants qui peuvent voir ça, puis ils vont aller faire ça ailleurs. Il y a des endroits spécialisés maintenant. On a des piqueries supervisées. Des centres d'injection, que ce soit à Montréal ou à Québec, aller faire ça à cet endroit-là. Je veux que les policiers fassent leur job, mais je veux aussi que les policiers aient une certaine tolérance, une certaine empathie envers les gens qui sont démunis, là, tant physiquement que mentalement.
Moi, c'est ce que je sens sur le terrain. Ouais. Quand on accompagne les gens en situation d'itinérance, des fois, on fait deux erreurs. Je fais un détour là, pour que comprendre, mais soit on les condamne ou soit on les prend en pitié. Et moi, je pense que ces deux choses-là, c'est pas correct. Là. C'est des gens qu'on accompagne qui souffrent. Maintenant, nous, quand on accompagne les gens, quand il y a des comportements, des fois, quand on a un bon lien de confiance sur les travails, ces comportements-là, les habiletés relationnelles, la façon de parler aux gens, le respect, nous autres, on est quand même sévère dans l'accompagnement aux gens là-dessus, oui. parce qu'on est leur reflet. Fait qu'on veut, qu'il y ait toutes les chances de leur côté de se réintégrer, tu comprends? Alors, c'est un peu la même chose dans la rue. D'abord, ça prend une grande tolérance parce qu'il y a des fois où les méfaits que tu commets sont pas induits à une mauvaise intention, mais à des comportements de survie. Par exemple, s'il fait très, très froid, puis tu rentres à quelque part pour te réchauffer, bien là, moi, je trouve qu'il faut, ça prend une tolérance là, là-dedans. Bon, maintenant, si quelqu'un, je ne sais pas, moi, fait un vol à l'étalage parce qu'il a faim, je suis capable de comprendre aussi. Est-ce qu'on doit accepter ça? Ben non. Tu sais, ça serait la même chose que dire que quant à l'alcool au volant, ben écoutez, c'est pas de sa faute, il était chaud, monsieur le juge. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il faut être capable d'accompagner les gens. Maintenant, ça prend une grande souplesse, tu sais, avec les personnes. Et je trouve qu'à Québec, les policiers le font bien. Puis il y a une grande équipe que j'aime, c'est les policiers multi. Avec les sergents, là, Marc-André et compagnie, qui accompagnent ces gens-là. C'est des policiers qui sont formés avec une approche au niveau des personnes en situation d'itinérance, qu'on les voit très présents, et ils ont réglé pas mal plus de choses par le dialogue que tais-toi, puis viens dans l'auto, puis that's it, là, tu comprends?
La confrontation, c'est jamais bon avec ces gens-là. Puis, tu sais, je vais me joindre à ta voix, Éric Boulay, parce que j'ai vu travailler cette escouade-là. Je les ai vus travailler aussi à Montréal. Je ne sais pas si c'est le même nom à Montréal, mais c'est des gens bienveillants qui font le tour des artères commerciales. Si jamais il y en a qui se sont couchés là, dans l'entrée des magasins, ben ils leur disent, le magasin va ouvrir des prochaines minutes, s'il vous plaît, vous levez, vous pouvez aller au parc, vous pouvez aller à tel endroit, puis vous n'aurez pas de problème. C'est des gens qui sont bienveillants. Je pense que ce type de policiers-là, on en a besoin. Autant qu'on a besoin de policiers, des fois, qui peuvent être un peu plus cow-boys avec les vrais, vrais, vrais méchants, autant que des gens bienveillants avec les moins bien nantis de notre société, on en a besoin aussi.
Alors moi, nous, on travaille au quotidien avec surtout les policiers multi, puis ils font, honnêtement, de mon point de vue, ils font un travail remarquable.
Comment je dois agir avec les itinérants, Éric?
Comme avec n'importe quel être humain, c'est-à-dire avec respect. Souvent, quand les gens viennent à l'Aubrivière, puis quand je les questionne, tu sais, il y en a, par exemple, qui aident l'argent, tu sais, puis ils viennent manger le soir avec ces sous-là, puis je lui dis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur, tu sais, dans ta journée? Bien, souvent, c'est quand les gens m'ignorent ou font semblant qu'on n'existe pas, là, tu sais. Alors, tu sais, c'est de démontrer de l'intérêt, c'est de tu sais, on a le droit de pas donner des sous. Tu sais, si tu fais quitter, moi, j'en donne pas. De toute façon, tu sais, j'ai besoin de mes sous pour acheter mon café ou, tu sais, je peux peut-être avoir de mes sous de poche, là, mais par contre, à chaque fois, je dis bonjour, puis je te souhaite une bonne journée, puis bonne chance, puis tu sais qu'il y a des ressources, mais là, c'est moi qui vais plus loin un peu. Mais mettons que je suis à Montréal, puis je suis pas à Québec, là, ben je vais quand même respecter les gens, tu sais, et dans le respect, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer des comportements. T'sais. On a le droit de dire aux gens, quand tu as des amis ou quand tu as un voisin, mettons, qui tombe la tondeuse quand ça ne te tente pas, là, tu peux aller le voir pour dire, écoute, j'aime moins ça à cette heure-là. Là. Des fois, ça fait des chicanes de voisins, mais des fois, ça se dit... Les personnes en situation d'itinérance, c'est des êtres humains comme vous et moi qui, malheureusement, des fois... sont plus là parce qu'ils souffrent trop et ils ont des comportements associés à cette souffrance-là. Mais en partant, considérer les gens comme êtres humains, c'est la bonne façon de réagir avec les personnes de la vie.
Pour ceux qui t'écoutent, Éric Boulay, à l'Aubrivière, ou pour les gens qui nous écoutent, qui seraient peut-être portés à vouloir faire du bénévolat, est-ce que c'est si compliqué que ça de faire du bénévolat pour des organismes? Par quoi on peut commencer?
Écoute, tu m'ouvres une super belle porte, là. Moi, je remercie tous les gens qui font du bénévolat à l'Aubrivière. Nous, on est chanceux. L'an dernier, 2500 personnes ont fait près de 30 000 heures de bénévolat. On n'y arriverait pas si on n'avait pas les bénévoles. Maintenant, c'est la période creuse qui commence, c'est l'été. Des fois, les gens, ils se rendent pas. On est en train d'essayer de dresser une liste d'appels qu'à dernière minute, là, tu sais que si le groupe de telle compagnie ne s'est pas pointé au bénévolat. On peut rappeler des gens qui restent proches, qui peuvent venir à la dernière minute donner un coup de main pour servir le repas. Alors, ceux que ça intéresse, là, bénévolat à commercial l'Aubrivière.org, que ce soit l'Aubrivière, mais aussi ailleurs. Il y a beaucoup d'organismes. Tu sais, on peut faire le 211 et vous allez voir, là, puis même 211 sur Google ou ailleurs dans un autre moteur de recherche. Là, puis tu as un ensemble d'organismes qui peuvent être à proximité de où tu restes, dans lequel tu peux rendre service. Moi, j'y arriverais pas du tout si j'avais pas tous les bénévoles qui viennent. Il y en a qui le font, il y en a près d'une centaine qui le font à chaque semaine. Puis aussi, ben, tu as des gens qui viennent une fois par année, je sais pas moi, dépanneur, machin, truc, vient avec son équipe, sont 4-5 personnes, puis ils veulent venir au mois de septembre, servir le repas un soir, bien ça crée des liens dans une équipe de travail. Puis je sais qu'à Boulevard, vous le faites de temps à autre, une petite gang qui vient servir le repas. Et puis en plus, sans trop en parler à la radio, ça c'est chapeau. C'est vraiment pour donner et redonner au prochain, là. Mais oui, il y a moyen de faire du bénévolat à Québec et partout, je crois. Mm.
Puis pour les gens qui voudraient donner à des organismes comme le tien, je sais pas, moi, je m'en vais chez Métro, je m'en vais chez Super C, je m'en vais chez IGA, super deal, là, tu sais, de la tourtière. Je peux-tu acheter comme une vingtaine de tourtières, une cinquantaine de tourtières, puis aller porter ça directement dans les organismes? Est-ce que ça se fait?
Ben, je ne sais pas pour les autres organismes, parce que c'est différent d'un organisme à l'autre, mais à l'Aube-Rivière, ça se fait. Ouais. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La moitié des denrées qu'on utilise proviennent de Moisson Québec. Hein. Fait que quand tu donnes à Moisson Québec, tu donnes aussi à l'Aube-Rivière puis okay. À plein d'autres organismes. Ça aide aussi. Les autres, c'est des spécialistes pour redistribuer ça, parce qu'on n'a pas toutes la même finalité. Moi, je fais un grand repas en même temps. C'est pas une... On n'a pas une carte de repas avec 3-4 menus. Là. On a un repas, puis si quelqu'un a des limitations, bien là, on adapte un ou deux repas stand-by. Là, si quelqu'un est allergique à quelque chose ou quoi que ce soit. Là. Mais fait, le fait de passer par Moisson, ça nous aide beaucoup aussi parce que les autres vont donner, mettons, une quantité X de ces pâtés-là une telle journée.
Ouais, OK. Ouais.
Mais maintenant, tu sais, les gens qui veulent donner directement aux gens de la rue, n'importe quand, ils peuvent venir à l'Aube-Rivière nous donner cette nourriture-là directement. Il y a Puis même, il y a des fois où il y a des gens qui ont faim malgré tout, là, malgré les ressources qui sont présentes. Puis maintenant, tu sais, il y a une réflexion sur la table alimentaire en basse ville avec l'organisme Touski et tout ça, qui sont en train de dresser une carte là, où des fois, ils vont avoir des événements à l'extérieur un peu partout pour être capable de donner directement dans les milieux de vie de la nourriture là où les gens sont. Alors oui, c'est important de contribuer par la nourriture. Maintenant, les organismes sont tous différents. Je pense par exemple aux vêtements. Nous, là, c'est mon ami Patrice avec son équipe au Café Rencontre qui habille gratuitement les gens qu'on accompagne. Parce qu'eux sont spécialisés là-dedans. Fait que, tu sais, puis ils offrent le dîner aussi. Ben, moi, c'est sûr que j'ai des petites garde-robes de survie. Si quelqu'un arrive à 2h du matin et qu'il n'y a pas de chaussures, il faut y mettre faut le chausser convenablement. Ouais. Mais le lendemain matin, s'il y a besoin de vêtements propres et tout ça, puis qu'il doit faire son lavage, par exemple, à l'Aube-Rivière, ben, il va aller au Café Rencontre, ils vont l'accompagner pour l'habiller, puis il va pouvoir revenir après faire son lavage, tu comprends? Fait que c'est un microcosme, tout ça. Fait qu'en donnant des vêtements à des organismes comme le Café Rencontre et d'autres, là, renseignez-vous, là, c'est facile maintenant, puis donner des denrées, ben, ça nous aide beaucoup à aider les gens. Et c'est pas chic de dire ça, mais moi, là, près de 40 % de mon budget annuel provient de monsieur et madame tout le monde par nos levées de fonds. Là. T'sais, on a une grande campagne de financement par année. Il y en a qui reçoivent dans le bureau de poste là, une lettre de sollicitation. T'sais, écoute, n'hésitez pas, tous les sous vont servir pour aider les gens. Hein. L'Aube-Rivière.org pour faire un don à l'Aube-Rivière. C'est avec ça qu'on réussit à accompagner les gens. Alors, bénévolat, don de vêtements, don de nourriture, des vêtements pas à l'Aube-Rivière, évidemment, je viens d'expliquer, mais dans un organisme, donner des sous aussi, ça aide beaucoup les organismes à réussir à accompagner les gens.
Éric Boulay, merci beaucoup pour ces 60 minutes en ta compagnie. Ça a été un plaisir, encore une fois, de te jaser, mon ami.
C'est un privilège pour moi de pouvoir répondre à ces questions-là. Merci beaucoup de m'avoir offert le micro.
Éric Boulay est directeur général de l'Aube-Rivière. C'est un organisme qui vient en aide aux gens qui sont sans-abri ou encore qui ont besoin de nourriture dans le secteur de Saint-Roch à Québec. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle jeudi, les amis. Salut, bye-bye.
Marceau, le soir.
À l'Oasis du Port de Québec, chaque journée a son ambiance. Yoga aquatique, quiz, spectacle d'humour, danse et musique vous attendent tout l'été au bord de l'eau. portdequebec.ca.
Vieux frigos, congélo, climatiseurs, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
On fait quoi finalement ce soir?
Hey, ben, on pourrait aller au Crackpot Café. Il y a une nouvelle succursale à Le Bourgneuf. J'ai envie de passer un bon moment créatif, peindre, déguster un café, puis se remettre à jour dans nos potins.
C'est vraiment une bonne idée, ça! Go, on y va!
Réservez dès maintenant au crackpotcafé.com.
Bon, OK, ça filme. Salut mes besties! On se fait un unboxing!
Je capote tellement les filles parce que Mercado.fm m'a envoyé plein d'affaires!
Nice! Un tapis de yoga! Ici, j'ai... oh my God, un crédit voyage de 1000$ et un abonnement de 1 an dans un gym. OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le BLVD.fm.
Fermez les yeux, vous êtes ailleurs. Une brise chaude, le murmure des vagues et, dans votre main, Lily Queen Coco Mojito. Un cocktail à base de rhum où la richesse des épices se mêle à la fraîcheur de la menthe relevée d'une touche exotique de coco. Un équilibre raffiné, une expérience premium. Élaboré au Québec, inspiré des